Bien, bonjour à toutes et tous. Bienvenue sur Les Lessiveuses. Donc, on est maintenant sur notre 20e émission. On n'a toujours pas de jingle d'entrée après bientôt un an d'existence, mais on va y arriver un jour. Aujourd'hui, notre émission est super contente de recevoir Sandra Joseph Maurice. Enfin, Sandra Maurice Joseph d'ailleurs, c'est ça?
Pas
Donc, bienvenue à toi. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Donc, c'est vrai que toutes les deux, on n'a pas beaucoup de points communs. Donc, on s'est rencontrés par l'entremise d'une amie à nous en commun, Florence, que j'embrasse très fort. Et voilà, donc le point de commun où on a commencé à se rencontrer, c'est surtout autour du master de création littéraire.
Exactement.
Donc voilà, c'est ça. Donc moi, j'en sors à peine et toi, tu y rentres aussi.
Je l'espère.
Oui, je pense, mais c'est vrai, on ne va pas mettre les bœufs avant la charrue. Mais voilà, donc ça, c'est notre point de rencontre, l'écriture, la littérature. Voilà pour cette toute première présentation très rapide pour nos auditeurs et nos auditrices. Mais donc, on va commencer avec la première question, la plus évidente. Sandra, pour commencer, dis-moi, comment est-ce que tu aimerais te présenter, en fait, toi, avec tes propres mots et qu'est-ce qui fait ton identité?
Oh, bon, moi, c'est Sandra Maurice-Joseph. Je fais partie de cette catégorie de femmes qui n'aiment pas donner leur âge. De toute façon, j'ai que 18 ans dans ma tête. Et plus sérieusement, je suis haïtienne. Je vis en France depuis bientôt 8 ans. Et je suis ingénieure de recherche en psychologie du développement de l'enfant et de l'adolescent. Je ne peux pas dire que je suis écrivaine, j'aime pas le dire, en tout cas pour l'instant, je sens que je ne le suis pas encore, mais j'essaie de le devenir en tout cas.
Oui, en herbe quoi.
Oui, une écrivaine en herbe. Et puis, je suis une personne simple, qui aime la vie, qui aime beaucoup la nourriture, qui aime les gens, qui aime partager, découvrir, voyager, et surtout... Je suis une passionnée de la littérature. J'aime beaucoup lire et à côté de cela, j'écris pas mal.
Donc justement, à ton arrivée en France, donc on s'est rencontrés déjà, on a eu deux fois, on va dire.
Oui.
Et lors d'une de ces conversations, ton arrivée en France, tu me l'as décrite comme une douleur. Quand même, et une série d'épisodes en fait assez traumatisants, et tu as découvert entre autres le racisme de notre pays, et cela a été inattendu pour toi, parce que quelle image tu avais de la France en fait avant d'y vivre, si jamais t'en avais une, parce que forcément c'est pas obligatoire.
Oui, mais... c'était difficile, d'une part parce que j'ai toujours vécu en Haïti avec ma famille, je viens d'une grande famille. Et c'était la première fois que j'allais laisser ma famille, mes amis, tout ce que j'avais en Haïti, pour venir dans un pays étranger où je ne connais presque personne. Il y avait des compatriotes haïtiens qui étaient à l'université et que je pouvais côtoyer rarement parce qu'on était tous pris par les études, il y en a qui travaillaient à côté. Et c'était très dur. Vraiment très dur de vivre seule dans un pays. En plus, le climat. Le climat, je pense que c'était le plus difficile pour moi. Aujourd'hui encore, hein, c'est encore difficile, mais au moins j'ai découvert les doudounes et puis les grands manteaux. Ça le fait un peu. Mais petite en Haïti, j'avais une image d'une France comme un petit coin de paradis.
Ah oui.
Parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens qui viennent en France pour des études notamment. Et on nous chantait les louanges d'une France, le pays de la poésie, le pays des grands écrivains, des grands penseurs, le pays des droits de l'homme, tu vois.
Oui.
Et j'avais cette France-là dans ma tête où c'était un pays où tout était très bien, les gens étaient très heureux, tu vois. Il y avait... Bon, j'étais petite. C'était un peu normal, cette naïveté-là. Mais j'imaginais un pays où tous les gens, ils buvaient du café, ils lisaient des journaux, ils faisaient des récitals, en fait. Je pensais que... Et partout dans les rues de France, les gens, ils récitaient de la poésie, ils déclamaient partout, quoi. Et puis j'ai grandi. J'ai découvert la littérature haïtienne que j'ai beaucoup adorée. Et je suis arrivée en France. Et là, j'ai pris une claque. Non, j'ai pris une de ces claques. C'est vrai, il y avait ce côté-là. En 2015, quand je suis arrivée, il y avait toujours ce côté-là. Il y a toujours ce côté-là, d'ailleurs. Ce côté d'intellectuel, c'est un pays, il y a plein d'intellectuels, il y a de grands penseurs, etc.
Oui, des mythes un peu de la France, comme voilà. Ça. Surtout le pays des droits de l'homme.
Exactement. Ouais. Mais sauf que, moi, haïtienne, qui vivais dans mon pays avec des gens de couleur noire, hein, des gens de couleur des haïtiens comme moi, le racisme... J'y pensais pas trop. On n'y pensait pas trop en Haïti parce que on faisait pas vraiment face à ces genres de problématiques. Et quand je suis arrivée en France, j'ai découvert le racisme. Et le pire, c'est que je savais même pas ce que c'était du racisme, tu vois.
Oui.
Parce que j'essayais de comprendre pourquoi les gens, ils étaient comme ça. Et puis, la première chose qui me vient à l'esprit, je me rappelle en 2015, novembre 2015, comme ça. Je venais d'arriver et puis je devrais ouvrir un compte bancaire. Et puis j'ai demandé à quelqu'un sur la place du Capitole. Et toute timide un peu, tu vois, celle qui vient d'arriver, la nouvelle. Je dis, bonjour monsieur, est-ce que vous pouvez m'indiquer? Ah non, il ne m'a pas laissé parler. J'ai pas terminé ma phrase. Il m'a dit non, j'ai rien sur moi. Mais j'avais pas compris le fait qu'il m'a répondu qu'il n'a rien sur lui, quoi. J'ai pas capté tout de suite. Et il y avait une dame à côté qui m'a dit, et je peux vous aider, mademoiselle? J'ai dit, bien sûr. Et oui, madame, avec plaisir. Et je cherche une banque. Et on m'a dit que ça s'appelle BNP Paribas. C'est où pour y aller? Parce que le métro, le bus, tout le travail, c'était nouveau pour moi, tout ça. Et puis la dame m'a gentiment expliqué. Et ça m'a pas fatigué sur le coup. Et puis, je racontais ça à mes compatriotes haïtiens. Ils se mettaient à mourir de rire. Je lui dis, mais pourquoi vous riez comme ça? Qu'est-ce qui se passe? Ils m'ont dit, mais ils pensaient que t'étais une mendiante. Je lui dis, mais comment ça?
Oui, totalement.
Ils disent, mais comment ça, une mendiante?
T'as même pas fait le lien.
Voilà, tu vois, je dis, mais je voulais juste une formation parce qu'elle a dit, j'ai rien sur moi. J'ai pas compris, j'ai rien sur moi, en fait.
Oui, ouais, ouais.
Et d'autant plus, j'ai même pas eu le temps de terminer ma phrase. Et puis, j'ai dit, waouh. Mais c'est quoi ce pays?
Ouais, t'as tout de suite été reléguée à de la mendicité.
Exactement. Mais c'est quoi ce pays? Je dis, mais c'est pas possible. Aujourd'hui encore, ça continue. Hein, ça continue. Il y a des gens qui font des remarques vraiment déplacées. Maintenant, je sais ce que c'est. Maintenant, je comprends ce que c'est. Mais avant, je pensais pas que cela pouvait exister. Je dis, ah, c'est le pays des droits de l'homme, tu vois?
Oui, oui.
Je prenais même pas en compte le passé colonial de la France. Je dis, là, on est en 2015, quoi. C'est derrière nous. Ça fait plus de 200 ans qu'Haïti est un pays indépendant. Et puis, je me dis, ça n'existe plus. Cette question de racisme ou autre, ça n'existe plus. Eh bien, les gens, il y a des gens qui ont eu des remarques tellement déplacées que ça me choque. Des personnes qui te regardent, qui te disent, ah, tu travailles comme femme de ménage?
Voilà,
ils n'ont pas posé la question pour savoir ce que... Ils n'ont pas attendu la réponse. Et ils ont décidé que tu étais soit femme de ménage, je ne sais pas, ou une immigrée.
Voilà, directement,
tout
de suite.
Tout simplement parce que je suis une femme de couleur, quoi. Et c'est faux.
Oui, donc il y a bien un mythe à déconstruire.
Absolument. 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 Ouais. Ça fait 8 ans que je suis là et la dernière fois que j'étais en Haïti, je crois que c'était en 2017, oui, c'est ça. Je pense que quand je vais retourner un jour en Haïti, je vais leur dire non, à mes amis, absolument, il faut déconstruire tout cela. La France est un pays comme tous les autres, en fait, comme tous les autres pays du monde.
Exactement.
C'est le pays des droits de l'homme, certes, mais il y a des gens qui sont racistes. Comme bien partout sûr. Dans le monde.
Bien sûr. Oui, parce qu'après, ça a quand même des conséquences. Toi, par exemple, sur ton arrivée, la découverte, t'es vraiment tombé de ta chaise, quoi.
Exactement.
Et ça peut avoir des conséquences sur la psyché qui sont terribles, quoi.
Franchement, et les premiers mois étaient très difficiles. Très, très difficiles sur tous les points. C'était très difficile à l'université. Dans une université étrangère, c'était une toute première, quoi. C'était difficile, ça allait trop vite, ça allait vraiment, vraiment vite. L'accent, L'accent, parce que nous, on parle le français avec un accent haïtien. Et j'ai grandi comme ça. Je connais, je le comprends. Mais en arrivant ici, surtout les Toulousains avec l'accent un peu plus, c'était difficile de comprendre certains cours. J'étais perdue dans la salle, surtout en amphithéâtre, une salle très grande avec beaucoup, beaucoup d'étudiants. Et c'était très, 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 très difficile.
Oui, c'est vrai que là, c'est une arrivée vraiment directe. Surtout, les amphithéâtres, le professeur, il n'est pas là pour. Voilà,
Exactement.
il fait son cours et puis tu suis, tu ne suis pas, ce n'est pas tellement
Voilà.
son
Et il n'y a
problème.
pas
Hein.
cette proximité. En Haïti, on est proche de nos enseignants. Il n'y a pas cette proximité-là. Tu vois? Je me dis, mais c'est quoi ce pays? Qu'est-ce qui ne va pas? Mais bon, j'ai fait de belles rencontres aussi. En dépit de tout cela, j'ai fait de très, très, très belles rencontres. Comme je ne suis pas du genre à mettre tout le monde dans le même panier, je savais qu'il y avait, même s'il y avait certaines personnes avec ce comportement-là envers moi, je savais très bien qu'il y avait des personnes qui sont très gentilles.
Oui, mais bien que néanmoins, quand on discutait une fois, tu m'avais dit que quand même, tu avais trouvé que c'était dur de construire des liens d'amitié, en fait.
Oui, c'était difficile.
Ouais.
Parce que l'université, en fait, par rapport à mes expériences en Haïti, c'était le lieu où on faisait plus de rencontres. C'était facile de se faire des amis à l'université en Haïti. Mais après, les étudiants, ils viennent, ils suivent leur cours, ils partent vite. Bon, ils ont leur vie, hein. Il y en a qui doivent aller travailler, il y en a qui doivent prendre le train.
Oui.
Il y avait tout ça aussi. Mais il y avait le côté, le fait que quand je suis arrivée, j'ai vécu ce genre de choses, j'étais un peu renfermée, tu vois. Je me suis repliée sur moi-même, je me disais, et j'ai pas envie d'aller vers les gens et subir ce genre de racisme encore une fois.
Ah oui, mais
Parce que
c'est normal.
c'était inacceptable. Et en plus, moi, je suis une haïtienne. Et le racisme, ça me fait quelque chose quand même. On ne le supporte pas, non. Tu vois, on est des révolutionnaires dans l'âme. Tu vois, on a
Bien
cette
sûr.
relation avec les colons qui restent, en fait, cette histoire qui reste avec les colons. Donc, quand un blanc te regarde et te dit, j'ai rien sur moi, ou tu es une immigrée, tu es femme de ménage, ça, c'est très mal reçu.
Oui, c'est des blessures
D'accord,
très
c'est très mal
profondes.
reçu et ça renvoie directement à ce passé colonial-là.
Oui, bien
Mais
sûr.
pour qu'il se prenne le blanc pour me traiter de, je sais pas, d'immigré ou de mendiant de quoi que ce soit sans même me connaître.
Bien sûr.
Mais bon, c'est un beau pays. C'est un beau
Malgré
pays.
tout.
Oh oui, c'est un beau pays. Vous avez du bon vin. Du bon fromage, des milliers de fromages que j'aime beaucoup d'ailleurs. Et puis, vous avez des croissants.
On est un peu sauvé par ce patrimoine-là, bon, alors
Oui, et
écoute.
puis il y a des gens de bien ici.
Oui, je comprends,
Bien.
mais voilà, la question c'était vraiment de voir que ce mythe continue de s'exporter en fait. Et je pense que on est responsable encore de ça.
C'est très dommage. En plus, quand tu ne voyages pas, tu ne connais rien de l'étranger. Il y a des gens qui viennent et qui te racontent des histoires. Eh bien, c'est facile de les croire.
Bien sûr.
C'est facile de les croire et d'avoir et cette image de ce pays, de ce petit coin de paradis.
Oui, je vois tout à
Dans la
fait.
réalité, c'est pas du tout ça. C'est pas du tout ça. Mais bon.
Non, et puis c'est vrai que je pense que les gouvernements successifs ont la responsabilité de continuer à exporter cette espèce de fantasme ou de mythe d'une France qui accueille, qui fait des efforts pour ces fameuses valeurs des droits de l'homme, alors qu'en réalité, c'est pas vrai. Moi, ça me fait penser à un truc que j'avais trouvé vraiment scandaleux. Je crois que c'était début 2017. Macron avait été élu il y a peu, il me semble. Et il était allé en Algérie et il avait rencontré le président et il avait décrété que le colonialisme était un crime contre l'humanité. Ça a très mal vieilli aujourd'hui parce que quand on l'écoute aujourd'hui, Macron, c'est pas trop le même discours. Mais disons qu'à l'époque, il avait eu cette position-là. Et en France, du côté de la droite ou de l'extrême droite, il y avait eu des réactions qui sont vraiment lunaires. Je me souviens de François Fillon qui avait dit « c'est une honte de dire que le colonialisme est un crime contre l'humanité. Donc on en est encore là, en fait. On en est encore là à ne pas vouloir reconnaître que c'est un crime contre l'humanité.
Donc si c'était pas un crime, c'est quoi alors?
Oui, bah, il faudrait leur demander, moi aussi.
Arracher des enfants de leur famille, le faire traverser l'océan pendant des mois. Et ça, c'est quoi en fait? Les esclaves, ils ont été battus, ils ont été vraiment, vraiment maltraités. Donc, si ce n'était pas un crime, alors je ne sais pas ce que c'est.
Moi non plus. Mais pour dire, on en est encore là, quoi. Ouais. Malheureusement. pour venir un petit peu à ta littérature et à ton rapport à l'écriture, Donc, comme je disais, hein, toutes les deux, on a été mises en contact par Florence, une amie à nous, que tu as bluffé hein, lorsqu'elle t'a entendu lire tes textes à un atelier d'écriture. Il me semble que c'était le grand M.
Donc, oui, oui.
Voilà, c'était ça. Et voilà, elle t'a entendu lire tes textes, elle a été complètement transportée et elle nous en avait parlé, elle nous avait dit, franchement Sandra, elle a une très grande présence, une présence très impactante sur scène, enfin on va dire, surtout quand tu lis en fait tes écrits. Et elle m'a aussi montré une captation vidéo d'une de tes lectures publiques que tu as faite dans un de tes poèmes il y a quelques années. Est-ce que tu voudrais nous lire un de tes textes?
Oui, ce serait avec plaisir. En fait, ce texte, je l'ai écrit en 2022, l'année dernière, en mars 2022. Et je faisais un atelier dans le cadre du 15e Festival des Nuits du Slam en Occitanie. Mmh. Et puis, il était question d'écrire un texte et tout ça. Et puis... on devrait choisir une émotion et moi j'avais choisi la tristesse à l'époque. C'était peut-être ma météo du jour, du moment. J'avais choisi la tristesse et puis de là est né ce texte qui s'appelle « Danse tristesse ». C'est parti.
Oui.
Tu es de couleur bleu caramel. Tu fais 1m80 et tu es un peu ronde. Tu as des yeux noisettes, des dents au reflet de la lune. Au beau milieu de ton visage d'ange se situe un beau nez plat. Plat comme s'il était écrasé par les coups de la vie, de cette vie que tu n'as pas choisie, cette vie de souffrance, d'inégalité et d'injustice, de cette vie de désamour, de déception et de désespoir. Autour de tes jolies hanches de négresse créole, tu portes des perles de toutes les couleurs, comme si tu essayes de reproduire les couleurs de l'arc-en-ciel pour tenter d'éclairer ton ciel gris. Tu es belle, tel le marabout au sein de mandarine d'Émile Houmer. Tu es belle, même avec ces lames amères qui inondent ton visage d'ange. Et comme tous les soirs, tu es là. Allongée dans ton lit à penser. Les soirs, tu es là. Allongée dans ton lit à penser. À penser à ce jour où tout a basculé. Ce jour où tu as dû tout laisser derrière toi. À penser à toutes ces fois où on te dit, sans même prendre le temps de te demander de te présenter. Au fait, depuis quand tu travailles comme femme de ménage? Et quand finalement on te le demande, c'est pour te dire « Ah bon, tu arrives à faire de grandes études? C'est courageux quand même. Sinon, tu fais comment pour vivre ?» À cette fois où ce vieux de 75 ans est venu vers toi au supermarché en zigzagant, te regardant droit dans les yeux et te dire « Hey ma beauté, je peux t'aider si tu veux. Tu es une immigrée, n'est-ce pas ?» Je peux régulariser ta situation si tu me donnes ton numéro. J'ai une bonne retraite, tu sais. Tu veux sortir avec moi? Tu es là à penser à toutes leurs insultes, leurs regards pleins de dédain, leur condescendance. Mais ce soir, tu ne resteras pas à penser jusqu'à l'aube. Tu vas sortir de ton lit, ouvrir ton placard et porter cette jolie robe noire qui... imprimé aux couleurs mélancoliques, épouse si bien ton corps impoli. Devant ton miroir, tu te maquilles, pour cacher la nostalgie sur ton visage. Tu marches droit vers ton piano et tu te mets à jouer cette douce musique qui te rappelle tant ton pays. Ce pays que tu portes dans ta chair, dans ton cœur et dans ton âme. Ce pays que tu as dû abandonner mais qui ne t'a jamais quitté. Et alors tu joues encore et encore en pleurant toutes les larmes de ton corps. Et moi, je viens vers toi. Je viens vers toi pour te rappeler à quel point tu es forte, pour te rappeler ton histoire, tes racines, tes batailles d'antan, pour te dire que tu es une invaincue, une rebelle et que tu es aussi têtue que le soleil. Et tu continues de jouer encore et encore. Stop! Tu l'entends ça? Est-ce que tu l'entends? Ce tambour, ce chacha, ce yang valou, est-ce que tu l'entends ça? Alors lève-toi. Lève-toi et danse. Danse avec ton cœur, avec ton âme, avec tes tripes. Danse tes douleurs, ton chagrin, ta nostalgie. Danse ton cœur brisé, tes cicatrices. Danse chacun de ces coups que tu as reçus. Danse chacun de tes soupirs. Danse ces pleurs qui inondent tes beaux yeux noisettes. Et surtout, danse tes victoires. Danse ta force. Danse ton identité. Danse tristesse. Jusqu'à ce que tu deviennes joie. Danse.
Ah, merci. Je suis contente que tu l'aies lu parce que moi, c'est le seul texte que j'avais de toi, le seul poème. Et du peu que je te connais, j'ai l'impression qu'il y a quand même tout dedans, ou beaucoup en fait. Ça dit beaucoup. Et puis entre l'onirisme, vraiment, ou des images comme ça, et l'incision de dialogue ou de choses rapportées comme ça qu'on t'a dit, de la réalité que c'est le racisme, etc. Et finalement, la force que ça donne, parce que ça, je trouve que c'est très bien donné. Tu le dis très bien, en fait. T'as un ton quand tu lis certains passages où il y a un ton vraiment très revendicateur. Souviens-toi qui tu es, te laisse pas faire, te laisse pas abattre. Donc moi, j'aime beaucoup ce poème-là. Et en fait, je me demandais qu'est-ce que ça signifie pour toi de lire tes textes comme ça, en public. Je te demande ça parce que pour moi, par exemple, lire un de mes textes, bon, c'est un cauchemar. Hein, ça n'a rien à voir avec le fait de les écrire. C'est deux mondes séparés. Et quand je t'entends et quand je vois la force que tu mets dans ta lecture, je me dis, il y a presque une espèce de transe où il y a un vrai désir de répercuter ce que tu as senti quand tu l'écris. Donc je voulais juste savoir si la lecture a une place significative dans ton processus de création ou si c'est simplement un moment de partage.
Non, c'est plus qu'un moment de partage. En fait, moi, quand j'écris, il arrive parfois que je commence à dire le texte avant de l'écrire. Et parfois, je commence à écrire un texte pour pouvoir le terminer. Il faut que je commence à le dire.
Ouais, d'accord.
Donc, c'est interdépendant. Et c'est quelque chose qui a commencé depuis toute petite. Et je ne suis pas la seule dans ce cas. Je pense que c'est le cas de beaucoup d'Haïtiens, d'Haïtiennes. C'est une question d'éducation, notamment. Parce que depuis la maternelle, tu sais, on fait des sketchs, il y a des pièces de théâtre qu'on met en scène à une époque de l'année, pour la fête des mères ou pour Noël, par exemple. Et puis, toute petite, nos maîtresses nous apprenaient des textes de Noël et il fallait vivre chaque texte, d'accord? Et tu imagines un enfant de 6 ans qui dit « Noël, le Dieu tout aimable est là dans l'étable ». Parce qu'à chaque fois, il fallait que ça soit rythmé. Tu vois, le ton, le rythme, c'est presque une musique, en fait. On vivait le texte, ça se voyait, parce qu'il fallait mettre le ton. Et puis, ça a continué tout au long de ma vie. Et en primaire, on a un gros livre, c'est très, très volumineux, qui s'appelle « Histoire d'Haïti ». Je ne sais pas si on l'utilise toujours. Et dans ce livre-là, il y a aussi quelques paroles célèbres de nos héros de l'indépendance.
Mm.
Et quand on te donne cette leçon-là à étudier, le lendemain, tu te tiens devant ta maîtresse. Il fallait bien réciter. En plus, c'est sacré, une parole célèbre d'un héros de l'indépendance.
Mm-hmm.
C'est très sacré. Tu ne peux pas venir devant ta maîtresse et dire un texte comme si tu allais mourir. D'accord? Il fallait que ça soit vivant.
Mm-hmm.
D'accord? Et quand on le dit, il faut le dire beau, il faut le dire vrai, il faut le dire avec son âme, avec ses tripes. Il faut tout mettre là-dedans.
Mm-hmm.
D'accord?
Mm-hmm.
Et il y avait des paroles, mais entre nous, on répétait, on revisait. Mmh. Avant, pendant la récréation, on révisait. Et puis, à tour de rôle, on se mettait debout devant le groupe, des amis. Et par exemple, j'ai une parole célèbre de Dessalines, le père de l'indépendance, le père de la nation haïtienne,
mmh.
et qui dit que « Je ne veux garder autour de moi que des braves, que ceux qui veulent redevenir esclaves français sortent du fort. » Que ceux, au contraire, qui veulent mourir en homme libre, se rangent autour de moi. Et la maîtresse, il te fait répéter encore et encore. Non, c'est pas vivant. Tu oublies Dessalines, tout ce qu'il a fait pour notre pays. Si on est indépendant, on est libre. Si on a chassé l'armée de Napoléon ou si on a battu les Français, c'est grâce à ça. Donc, t'es un haïtien ou t'es pas un haïtien? Donc, il fallait le dire avec son âme, quoi.
Oui.
Et c'est resté.
Ouais,
c'est
oui.
resté, il faut le dire, quoi. En le renversant à Saint-Domingue, on n'a abattu que le tronc de l'arbre de la liberté. Mais il repoussera, car ses racines sont profondes et nombreuses. Tout ça, l'ouverture. Donc, on a ça en nous, on grandit avec ça. Et puis, il y avait ces fameuses émissions pour les enfants à la radio. Même si tu récitais un verset de la Bible, il fallait le faire bien. Il fallait le faire comme ça. Ça doit être toujours vivant. Il faut toujours le vivre. Et puis, au collège, j'ai découvert la littérature haïtienne, des grands poètes, des grands écrivains haïtiens. Et j'avais un prof de littérature haïtienne qui était super.
Mm-hmm.
Lui, quand il disait un texte, ben, bon Dieu, ce cours, tu ne veux pas qu'il se termine.
Oui.
D'accord? Mm-hmm. Si après, tu as les mathématiques ou avant, tu avais les maths, ça, c'était ce qu'il fallait. C'était cette dose de la journée que tout le monde attendait. Et c'était bien, quoi.
Ah ouais.
C'était bien quand tu écoutes un poète haïtien. Par exemple, on a Pierre Brisson, Cito Cavé. J'aime bien les écouter. On a Eleus Papillon aussi. Et je te conseille d'aller les écouter. Parce que c'est vivant. C'est très vivant. Mmh. Et puis même pas à l'école. Dans la famille, quand on t'envoie acheter du pain, par exemple, ou quand tu fais quelque chose, il faut le faire bien. Parce que nous... T'es un haïtien, tu dois être habile, vivant, tu marches à part déterminée, tu fais tout avec la vivance, quoi, comme ils disent les jeunes aujourd'hui. Il faut que ça soit comme ça. Et quand je dis un texte, comme je fais tout en créole, moi, je respire créole, je mange créole, je suis créole. Quand je dis un texte, c'est ce côté-là. Que ce soit un texte écrit en français ou en créole, eh bien, quand je dis un texte, ça doit être... C'est naturel. Je ne fais pas d'effort. Ça vient comme ça.
Mm.
Comme si, d'autant plus, c'est un texte que j'écris moi-même. Donc, c'est pour la plupart du temps, c'est du vécu.
Mm-hmm.
Donc, je sais ce que je veux transmettre, ce que je veux laisser voir.
Mm-hmm.
Comme quand je dis ce tambour, ce cha-cha. On voit le tambour. Il faut qu'on voit ce cha-cha, ce yanvalo que je danse, que danse la tristesse. Il faut le voir.
Mm. Ah oui. C'est très important. Après, vous n'avez pas le même rapport, de ce que j'ai compris, des fois où on discutait, vous n'avez pas du tout le même rapport à l'éducation, au professeur, qu'on peut l'avoir en France. Parce que c'est,
pas du tout.
C'est très important.
Pas du tout. Un prof, c'est quelqu'un de très, très respecté.
Mm-hmm.
C'est comme en France, ils n'ont pas un bon salaire, mais les professeurs de chez nous sont... beaucoup plus respecté qu'un homme riche, par exemple.
Mm-hmm.
Parce que c'est sacré, un prof. Mm-hmm. Et tu l'étudies même. À l'école, le prof remplace les parents. Tu le connais par cœur, tu le récites tous les jours. D'accord? À l'école, le prof remplace les parents. Et du coup, ton prof, il a certains droits sur toi. C'est comme un deuxième parent.
Mm-hmm.
Dès que tu es à l'école, eh bien, tu es sous la responsabilité du prof.
Mm-hmm.
Et même en dehors de l'école, tu es sous la responsabilité du prof. Parce que si le prof te croise dans la rue, tu fais, et que tu es en train de faire une bêtise, eh bien, ce prof, il a tous les droits. Il peut sortir sa ceinture et te friter. Sauf que quand il le fait, tu ne peux pas aller te plaindre à la maison parce que on va t'en remettre une couche. C'est un déshonneur. Si ton prof te surprend en train de faire une bêtise, il te réprimande ou il sort sa ceinture, hein, parce que le châtiment corporel aujourd'hui encore, c'est acceptable en Haïti. Eh bien, ça, tu le gardes pour toi. Tu l'emportes au tombeau parce que tes parents, ils vont te tuer après.
Oui, ils ne vont pas te donner raison par rapport...
Non, voilà. Les enfants n'ont pas de raison sur ce point-là, non. Tu n'as pas de raison, aucune raison. C'est tout le village qui élève un enfant en Haïti.
Oui, c'est ça. L'autorité n'est pas centrée à la famille même.
Un prof en Haïti, c'est quelqu'un de noble. Hein. C'est très, très, très respecté. Même s'il il ne gagne presque rien, mais c'est une figure emblématique chez nous.
Oui, c'est comme la famille, la cellule familiale, où ça a la même autorité.
Exactement.
C'est très important.
Exactement. D'accord. Et quand je regarde Super Nanny ou d'autres documentaires, je me dis, bon Dieu, il n'y a qu'en France que je pourrais voir ça.
Oui, c'est sûr.
Je dis qu'en France, parce que c'est la France que je connais, à part Haïti. Mais on ne peut pas manquer de respect à un professeur. c'est inadmissible, ça.
Non, c'est sûr, nous, on a un rapport beaucoup plus distancié. C'est pas du tout le même rapport. Je le vois même dans ce que moi, j'ai vécu à l'école. La récitation des textes, c'est pas une passation de savoir ou de pouvoir. C'est histoire, on le fait parce qu'il faut avoir une bonne note, quoi. Je pense que c'est très rare, les élèves qui rentrent en transe... en train de réciter des poèmes à l'école française, à mon avis.
C'est dommage, mais c'est
ah oui,
très
c'est
bien,
dommage.
Ça fait du bien en tout cas.
Bon, bah merci. On va faire une petite pause musicale et puis on se retrouve tout de suite après.
D'accord.
Barre soleil la capenye, yon carnaval coule mélange. Moi dis merci pour de green gym. Pour kem qui nous mit en gomme, qui bab jam ou ke remè. Merci pour même qui caresse. Tout mon l'amour mène en vim. Merci pour sa maman zombie. Qui la qui campe côté pour courir la voix tombe. En jour moi ri, en jour crié. Merci pour voir qui a parlé, tout ça non moins va casserer, vous aurez moins qui attendait. Yo femme qui besoin parler, le problème yo voulez voter. Merci pour moun qui pas juger, bon moi l'amour là yo croisé, toujours vini pour yon bravo. Là l'homme peut dire adresse, moi l'on va yo appuyer. Un jour moi rire, un jour moi crie, pense à la vie. Déployé, qu'il y a raison pour m'd'appeler, mais plutôt m'compter tout ça m'gagne. Des fois m'bite m'd'écringolé, mais l'homme tombe toujours levé. Sous des pieds, moi qui pote, moi côté tout sous l'eau à couler.
Voilà, donc on est de retour. Pour rester quand même sur ton écriture, j'avais une question. Est-ce que tu as remarqué une récurrence de certains thèmes ou de certaines thématiques dans ton écriture? C'est les fameuses obsessions des auteurs-autrices, comme on les appelle. Ce autour de quoi tournent en fait tes textes? Est-ce que ça, est-ce que ces thématiques fortes ont une source, ont une racine?
Oui, et ça dépend aussi de la période. Et il fut un temps où j'écrivais beaucoup sur la famille. Par exemple, à mon arrivée en France, j'étais loin de ma famille, j'étais très nostalgique, j'écrivais beaucoup sur la famille. Mmh. Et puis, j'ai vécu pas mal de deuil aussi depuis 2010 avec le tremblement de terre. Et puis, jusqu'à récemment, j'écrivais beaucoup sur le deuil. Et maintenant, j'écris beaucoup sur le corps. Sur le corps parce que je suis malvoyante et j'ai d'autres soucis de santé qui font que parfois, et c'est le mieux à faire, d'accord? Mm-hmm. C'est plus qu'un médicament. D'ailleurs, l'écriture pour moi a toujours été un remède et j'écris dans toutes les circonstances. Et j'écris beaucoup, beaucoup sur le corps et il m'est venu l'idée de faire un recueil de poèmes avec les textes qui se tournent autour du corps. Et je l'ai appelé Corps à Corps, le recueil. Je ne l'ai pas encore soumis à des maisons d'édition.
Joli titre.
Mais je l'ai appelé Corps à Corps. En gros, Corps à Corps, c'est un corps qui est parfois un ennemi, un ennemi pour l'écrivaine, bon, pour moi. Et c'est parfois un ami. Et c'est aussi un corps qui est en colère, parfois. C'est un corps qui dit non aux cases prédéfinies, non aux politiquement corrects, non aux déterminismes sociaux. C'est un corps tel que je le conçois et se recueille. Et à force de lire et de relire mes textes, et je pense que c'est un corps qui a été trop longtemps censuré, qui se réveille et qui se révolte, qui réclame justice. C'est un corps qui veut s'assumer, qui veut que le monde le voit tel qu'il est vraiment. C'est un corps qui veut rester libre, qui veut rester vivant. Et c'est un corps qui veut jouir pleinement de son droit d'aimer, d'être aimé. C'est un corps cicatrisé, un corps joyeux, un corps désirable, avide de désir. C'est le corps de toutes les femmes. D'accord? C'est le corps de toutes les femmes. Je pense que beaucoup de femmes pourraient se retrouver à travers ce recueil-là. C'est un corps malade, c'est un corps en bonne santé, c'est un corps qui cherche du plaisir. En même temps, c'est un corps qui dit non. C'est tout ça. C'est tout ça et je pense que, en tout cas j'aime beaucoup cette œuvre-là et j'espère qu'il va trouver une maison d'édition.
Ah bah ouais, on espère, c'est le partage de la combativité aussi, j'ai l'impression.
Exactement, exactement. Parce qu'il y a des gens qui font du shopping quand ils vont mal ou quand ils vont bien, hein, ou qui font la fête ou autre. Je pense que moi, la chose que je fais le plus souvent, c'est d'écrire. Je lis beaucoup, mais j'écris beaucoup. Et par exemple, j'ai un texte là qui s'appelle « Rebelle ». Je ne sais pas si les titres vont changer avec le temps, mais pour l'instant, « Rebelle », c'est dit « Je ne suis pas ta victime ». Non, je ne suis pas ta victime. Je suis celle qui se dresse contre toi, celle qui est plus forte et plus tenace que toi. Je suis ce corps qui te résiste malgré ton acharnement pour abîmer chacun de ses organes les uns après les autres. Je suis ce cœur qui, attristé à cause des souffrances que tu lui infliges, continue d'aimer ce corps que tu maltraites et de battre pour le maintenir en vie. Je ne suis pas seulement cette femme qui pleure sous les coups de tes douleurs, celle que tu paralyses à ta guise, celle qui se tord, se mord, se tape pour supporter ton mal. Je suis celle qui gémit quand tu danses le jarruton sur son pelvis, celle qui hurle pour tenir tête aux crampes abdominales que tu lui imposes, celle qui chantonne pour oublier que t'es là, en train de le ronger de l'intérieur. Alors, ne prends pas la grosse tête, parce que tu ne seras jamais plus fort que moi. Tu peux toujours essayer de me détruire de toutes tes forces, mais tu ne seras jamais vaincu, car je serai toujours ce corps qui lutte jusqu'à la fin, ce cœur qui battra pour te rappeler qu'il est en vie, cette âme qui continue de briller sur ta noisseur. Oui, je suis celle qui te survivra, car je suis cœur, un cœur aimant, je suis corps, un corps résistant, et surtout, je suis une rebelle, celle qui utilise des mots pour combattre tes mots, celle qui écrit pour te résister.
Mais voilà, c'est ça que j'adore. Quand je parle avec toi, ne serait-ce qu'un petit peu, tu vois, ou quand je t'entends lire les poèmes, c'est vraiment la rébellion, c'est la révolte, c'est la combativité, qui sont très, très empuissantants, on peut dire. Mais justement, c'était Édouard Louis, donc c'est un jeune écrivain français qui disait dans une interview à Mediapart il y a quelques années, il faut écrire contre la littérature pour faire de la littérature, dans le sens où la littérature n'est pas un univers qui est ouvert sur le monde à 360 degrés quand même. Hein. Et on a beaucoup de récits qui sont vus et revus dans le sens où ce sont les mêmes personnes qui ont parfois accès à la publication, ou en tout cas qui ça reste plus facile. Après, ça s'est bien démocratisé, hein, mais quand même. Et qu'il y a des récits de vie qui manquent néanmoins. Quoi. Moi, encore récemment, c'était En Salle. C'était un roman qui a été publié aux éditions de Minuit et qui donnait un peu sa place dans la littérature au McDo. Et qu'est-ce que c'est de travailler au McDo,
c'est
en fait.
C'est intéressant, ça.
Ouais, voilà. Donc, y a, dans ce sens-là, où il y a encore des univers qui n'existent pas, en fait, ou qui sont trop peu explorés. Et la question, donc, justement, toi qui parles d'ambition, de publication, qu'est-ce que tu pourrais apporter, en fait, dans ce sens-là, à la littérature qui manque? Qu'est-ce que tu voudrais donner au monde, à ce monde-là littéraire et qui n'existe pas?
J'ai pas fait assez le tour de la littérature pour dire exactement ce qui existe ou ce qui n'existe pas. Mmh. Parce que je suis une grande lectrice, certes, mais je pense qu'il me reste beaucoup à faire. Et je pense que toute une vie ne serait pas suffisante pour pouvoir lire. Mais moi, je veux être une écrivaine très libre. Très libre dans le sens où il y a des sujets qui sont un peu difficiles à aborder. D'accord? Et récemment, j'ai discuté avec une amie qui a un grand vécu. Et puis, elle m'a dit, Sandra, tu sais pourquoi je n'écris pas? C'est par rapport à mon entourage. J'ai peur d'écrire des choses, de me livrer, et que cela affecte mon entourage. Moi, je me dis, la littérature nous donne la possibilité de dire ce qu'il y a au fond de nous. Sauf qu'il y a des gens qui se censurent, qui ne le disent pas. Mais moi, si un jour je dois devenir une grande écrivaine, je serai vraiment libre. Si l'envie me prend de parler de mon corps comme ça dans un texte, je le ferai. Si l'envie me prend de parler d'une belle paire de chaussures, je le ferai.
Oui.
Tu vois? Parce que la littérature, ça doit toujours rester libre. Et puis, c'est ça qu'on a, en fait. C'est l'une des plus belles moyens, des plus beaux moyens d'expression, je trouve.
Voilà, donc contre l'autocensure, ou alors à l'inverse, contre une espèce de bien-pensance qui ferait qu'on n'aborde pas certains sujets aussi.
Et moi, je suis... Quand j'écris, je suis dans l'âme une rebelle. Évidemment, je suis haïtienne, donc je suis une rebelle. Donc, c'est en moi, c'est dans mon âme, c'est dans ma chair, etc. Mais quand j'écris, j'écris. Parce que s'il me vient à l'idée un texte, je pense que ça va plaire à quelqu'un, à des gens, même si ce n'est pas du vécu.
Oui.
Je l'écris. J'étais en voiture avec mon mari et il y a un mois de cela, et puis j'écrivais quelques textes pendant que j'étais à New York. Et puis je lui disais, voilà, je vais te lire quelques textes. Attention, ce n'est pas du vécu, mais tu verras, tu vas les écouter et tu me diras. Parce que c'est des textes qui parlent de désir, qui parlent d'une femme qui veut expérimenter des choses, qui veut être libre, qui veut... Tu vois, ça n'avait rien à voir avec mon histoire, mais j'avais envie de l'écrire, et bien...
Bien sûr.
Je l'ai écrit.
D'accord, je vois.
Et quand on est femme dans ce milieu-là, quand on est femme en général, on pense qu'on n'a pas tous les droits. Une femme, ça n'écrit pas certaines choses, ça ne dit pas certaines choses, ça doit être pudique, ça doit être ci, ça doit être ça. Ben, je suis une femme, j'ai les mêmes droits que les hommes.
Pas de tabou.
Pas de tabou.
Bien sûr. D'accord.
La seule personne, honnêtement, qui pourrait m'inquiéter un petit peu, c'est ma maman. c'est vrai, c'est ma maman.
Ouais.
C'est une maman haïtienne, donc il y a des choses qu'on ne fait pas. Donc c'est une maman haïtienne, elle fait le roi. Ouais. Elle est la loi. Donc je pense que mon mari, il est ouvert d'esprit, c'est un grand homme, il sait à quel point j'aime la littérature, à quel point j'aime écrire. Et puis peu importe quoi.
Bien sûr.
C'est ma plume. Tu vois, je pense que c'est la seule personne qui serait capable de me freiner, c'est ma maman.
C'est ta mère.
Tant qu'elle est en vie, bien sûr.
Oui, bien sûr.
Mais après, si je veux dire que, je sais pas, je veux que tu me donnes à boire et à manger. Et... Mais oui.
Bah, quelque part, si c'est le seul... pas obstacle non plus, mais si c'est le seul petit levier qu'il y a comparé à d'autres personnes par rapport à l'immense autocensure qu'on peut se faire à soi-même, c'est quand même, c'est pas si mal déjà, on va dire.
Moi je dis que tant que c'est de bonne qualité, tant que c'est bien, tant que ça provoque des émotions, tant que c'est apprécié, c'est bien reçu, ça me va.
D'accord.
Ça me va.
Et donc là, tu nous as lu des textes que tu as écrits en français, mais je me demandais, est-ce que tu écris aussi en créole ?
Oui.
Oui.
Mais ça fait quelque temps quand même. Depuis que je suis en France, j'écris plus en français. Mais comment l'expliquer ? Je pense en créole. Tu vois ? Sans ça, je ne pense pas que je serais capable de traduire vraiment mes émotions.
D'accord.
Donc, je fais tout en créole. Je suis haïtienne, je suis une créole. Avant d'écrire un texte, je le pense. Quand je le pense en créole. Et même quand je dois apprendre une leçon, par exemple, c'est écrit en français dans le livre, mais je l'explique en créole. C'est comme ça que j'arrive à retenir cette leçon-là. Que ce soit un poème ou un texte d'histoire d'Haïti, de géographie, peu importe. Il y a toujours le créole. Le créole, il est toujours, toujours présent. J'écrivais beaucoup en créole quand j'étais en Haïti, ce qui était tout à fait normal parce que j'avais que des Haïtiens autour de moi. J'étais dans la bulle, quoi. Mais comme je suis dans un pays francophone, il n'y a pas que ma famille qui va me lire. Et j'écris en français.
D'accord, oui.
Mais dans les textes, il y a de temps en temps des petits mots en créole. Comme tout à l'heure, j'avais dit, quand tu danses le diarreton, tout le monde appelle vie. Ça, c'était du créole. Le diarreton, c'est un mot créole. C'est une danse. Comment l'expliquer ? C'est pas une danse violente, mais qui demande beaucoup d'énergie, en fait. Qui demande beaucoup d'énergie. Et c'est du créole. Tu vois, je visualise tout d'abord un créole et je l'adapte.
Je pense que ça enrichit beaucoup littérairement déjà le texte, en fait, de rajouter, en fait, déjà textuellement des mots créoles. Et même, je me demandais, est-ce que tu as une interconnexion quand tu écris en français? Est-ce que, par exemple, la syntaxe créole interfère peut-être avec ta manière, toi, de composer tes phrases françaises? Ou est-ce qu'il y a peut-être des mélanges comme ça littéraires que tu fais, ou vers quoi tu as envie d'aller peut-être aussi?
Oui, là, je suis en pleine exploration, mais je pense que c'est vice-versa, en fait. C'est les deux. Et quand j'écris un texte, d'accord? Soit c'est une musique, une réplique dans un film, ou peu importe ce qui m'a inspiré ce texte-là, je l'écris. En même temps, j'essaie de le vivre, mais je le vis en créole. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais même pour dire un texte, par exemple, c'est ce côté haïtien, ce côté créole, ce côté haïtien sur scène, d'accord? Cet accent, les gestes, parce que c'est une langue tellement musicale, c'est bien rythmé, le créole, c'est beau. Moi, j'aime l'accent. Je ne le dis pas parce que je suis haïtienne, mais le créole, c'est une belle langue, une très belle langue, c'est musical. Et j'aime beaucoup écouter les poèmes des écrivains haïtiens qui écrivent en créole. Il y a une musique, c'est tellement beau à entendre. Même si tu ne parles pas créole, ça te fait quelque chose. D'accord? Ça te fait quelque chose, ça transmet beaucoup d'émotions. Et quand j'écris un texte en français, je n'écris pas en créole et le traduire en français. J'écris directement en français ou bien j'écris directement en créole, si c'est un texte créole. Mais il y a tout le temps des petits mots en créole qui viennent, que j'ajoute dans le texte. Soit j'essaye de les traduire littéralement, si ça ne fait pas beau parce que c'est de la poésie, si ce n'est pas assez beau, je laisse en créole comme ça.
Oui, c'est bien.
Et parfois, pour traduire une émotion, je ne peux la traduire qu'en créole. Chez nous, on dit, quand une femme haïtienne est vraiment en colère, elle ne peut parler que créole. Et quand un petit haïtien te dit qu'il a faim, tant qu'il te le dit en français, il n'a pas encore faim.
D'accord.
Mais quand on te le dit en créole, c'est que là, on traduit les vraies émotions, les émotions les plus profondes en créole.
Ouais, c'est très beau ça. Ouais.
Parce que je pense que c'est peut-être pareil pour tous ceux qui ne sont pas francophones ou bien qui sont francophones mais qui ont une langue maternelle. Parce que moi, si j'arrive à exprimer une émotion, ça va se faire en créole. C'est tout naturel, en fait.
Mais c'est vrai que c'est une belle langue. Après, tu vois, moi, par exemple, je ne la comprends pas du tout. Mais le morceau qu'on a passé avant, c'est « Messie la vie ». Je ne comprends pas toutes les paroles, mais il y a quand même... on entend quand même la beauté de cette langue-là.
Et en plus, ça ressemble pas mal au français. Messie, c'était « merci ». C'est merci en français. La vie, c'est la vie en français. Sauf que c'est pas écrit pareil.
Non, ça s'écrit pas pareil. Mais même, c'est quand tu enlèves le R de merci, ça change quand même déjà la sonorité. Tu vois, c'est plus doux, c'est plus adouci le messie que le R qui vient un peu.
Et puis, on ne se casse pas la tête. On ne se casse pas la tête. On n'écrit pas aujourd'hui avec virgule et tout le tralala. On ne se casse pas la tête.
En un seul mot.
On ne dit pas aujourd'hui pour commencer, on dit jeudi. Jodi. Et puis, il n'y a pas tout ce U, la bouche tantôt ouverte, tantôt fermée. Ça demande trop d'exercice pour nous. Nous, on dit éducation. On ne dit pas éducation, on dit éducation. On ne dit pas bonjour. C'est trop compliqué avec le R, on dit bonjour.
Ouais.
Donc, il y en a qui disent que c'est du français mal prononcé. Moi, je dis que ce n'est pas du français mal prononcé, non. C'est juste une belle langue, quoi.
Oui, oui, ça n'a rien à voir avec... en fait, c'est une autre langue.
C'est une autre langue.
Qui a des sonorités communes avec le français, certes, mais ça reste une langue avec sa syntaxe, avec sa culture, avec tout ce que... C'est autre chose, bien sûr.
Exactement.
D'accord. On va refaire une petite pause musicale, puis on revient tout de suite après.
Moins sûr que l'instant suivant, il n'y a que des futurs morts parmi les vivants. Et vu que demain n'est qu'une hypothèse. Tous nos projets devraient s'écrire entre parenthèses. Plus d'arrogance dans nos attitudes. Pourtant nous n'avons qu'une certitude. Ce qui doit arriver n'est jamais lointain. La mort est notre destin le plus certain. On pleure en fou rire parce qu'on doit vivre en acceptant de mourir. On a tous un pied dans le trou. On vit avec une épée posée sur le cou. Personne ne sait quand elle va trancher. Nos vies posées sur une balance. Personne ne sait quand elle va pencher. Mourir à petit feu, c'est vivre. Tous les jours vont à la mort et le dernier y arrive. On laisse partir nos instants. En vérité, on ne rattrape jamais le temps. Chaque seconde nous pousse vers le cimetière. Il y a quelque chose de mortuaire à chacun de tes anniversaires. Témoin du temps qu'on gaspille. L'horloge nous menace, nous pointe avec ses aiguilles. Inévitable est ce rendez-vous imprévu. Paradoxal comme mourir sans avoir vécu. Chaque jour notre histoire s'écrit. On n'est pas seulement ce que l'on souhaite. On est surtout ce qu'on accomplit. Vivant, on peut se mentir ou espérer. Mais une fois mort, on aura été ce qu'on a été. On doit tous mourir, on le sait. Pour quitter ce qu'on aime, on n'est jamais prêt. Ainsi, lorsqu'elle emporte l'un des nôtres, on est surpris comme si la mort n'arrivait qu'aux autres. Et on a du mal à y croire. On ne conçoit pas de ne plus jamais les revoir. On tient parce qu'on doit tenir. On doit leur survivre en s'accrochant à des souvenirs. Parfois la mort nous porte un coup si brutal qu'après elle, la vie n'a plus le même goût. De l'insouciance à la tragédie, l'idéal J s'est éteint avec le DJ Mehdi. Il est trop tard pour les regrets. Les choses inavouées resteront à jamais des secrets. Pour prouver notre amour, on est souvent trop lent. On croit toujours que la mort prendra tout son temps. Alors on se croise sans se parler. Parfois même on se toise sans se regarder. On s'entend sans s'écouter. Pas étonnant qu'on se dispute sans discuter. Puisque la vie nous rassemble, on se rend pas compte de la chance qu'on a d'être ensemble. Bip-moi, on se verra plus tard. Jusqu'à cet adieu qu'on prenait pour un au revoir. Je pense à mes potes qui se sont fait buter. Et que même l'amour d'une mère ne pourra pas ressusciter. Universel, la mort n'arrive.
Alors, on arrive à la fin de cet entretien avec toi, Sandra.
D'accord.
Donc, il y avait une dernière question qui, moi, m'intéresse beaucoup. C'était par rapport à ce que toi, tu peux me dire des mots qu'il y a en commun entre le créole et le français, en fait, qui sont pris dans des visions très différentes, dans des paradigmes différents, voire complètement opposés. Et c'est un mot, par exemple, qu'on a entendu, ou une expression... dans un le premier poème que tu nous as lu. Donc c'est par exemple le mot nègre ou négresse, ou même l'expression négresse créole. Donc ça, c'est un mot que vous utilisez, qui est très utilisé en Haïti, qui existe aussi dans la langue française, et qui n'ont rien à voir dans le sens qui renvoie, en fait, qui sont pris vraiment dans des visions du monde qui sont opposées. Dans ton paradigme d'haïtienne, le mot nègre, il fait partie du vocabulaire courant. L'expression négresse créole, tu me l'expliquais, comme tu l'écris dans ton poème, c'est un des plus beaux compliments qu'on peut faire à une femme noire haïtienne. Et dans mon paradigme à moi de blanche, de française, le mot négresse ou nègre, c'est quand même pas du tout, c'est profondément raciste en fait. Et aussi, c'est daté d'ailleurs, parce que c'est un mot qui commence à dater un petit peu, qu'on n'utilise pas plus, sauf pour blesser en fait. Et avant que tu m'en parles, j'ignorais en fait que le mot négresse créole, par exemple, ou l'expression, peut être aussi beau en fait, peut être aussi lumineux, peut renvoyer quand même à de la force, à de la beauté. Et parce que je suis prisonnière, en fait, moi, de ce que je connais de ce mot-là, et donc qui est quand même dans une vision coloniale, et c'est tout ce que je peux attraper de ce mot-là, moi, dans mon monde. Et en fait, je me demandais déjà, est-ce que tu as conscience qu'il y a des mots comme ça qui s'opposent pour les Français et les Haïtiens? Et qu'est-ce que ça t'apporte? Est-ce que ça t'intéresse? Est-ce que ça te parle, cette espèce de collision comme ça?
Et franchement, quand tu m'en as parlé, ça m'a aussi fait... Ça m'a surpris. Parce que dans ma tête, comme je te l'ai dit, l'haïtienne que je suis, et il y a des choses auxquelles je ne fais pas forcément attention. Parce que moi, j'ai jamais fait attention à la couleur de... En fait, j'avais jamais fait attention à la couleur de ma peau. Tant que j'étais en Haïti, donc on va pas me dire une négresse. Bon, négresse en Haïti, ça c'est autre chose. On va pas me dire noir ou black, peu importe. Parce que ça, on fait pas attention à ça. Mais quand tu m'as dit nègre, négresse, ça se voit pas comme ça. J'ai dit, ah, là ça m'a fait un tic. J'ai dit, c'est tellement beau. C'est tellement beau parce que les poètes haïtiens, les musiciens haïtiens, les écrivains ici en général utilisent beaucoup le mot nègre, le mot négresse créole, l'expression négresse créole. Parce que être une négresse créole en Haïti, ça veut dire qu'on est une très belle femme, avec tout ce qui va avec. Hein, on est intelligente, on a une belle couleur de peau, on est souriante, on est solaire, on a de jolies formes, on a tout quoi.
Ouais.
Une vraie négresse créole, c'est une belle femme haïtienne accomplie. Qui a tout physiquement, intellectuellement. Et quand on dit nègre, c'est un compliment, c'est plus que ça en fait. C'est une sorte de revendication d'identité.
Oui.
Et même pas les écrivains. Quand chez toi, quelqu'un te dit « Ah, et lui là, c'est négam, c'est mon nègre ». C'est mon nègre signifie c'est un ami, c'est un confident, c'est quelqu'un de confiant.
D'accord.
Être un bon nègre signifie être quelqu'un de bien, de notable. C'est un très 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 bon compliment. Et là tu me dis eh bien négresse ou nègre c'est une insulte. Je dis mais qu'est-ce que c'est que ce délire en fait.
Si en France un blanc te dit à toi par exemple tu es une bonne nègre, ça ce n'est pas un compliment. Ça c'est pas du tout un compliment, tu vois. Mais le fait que tu m'expliques ce que ça veut dire pour toi et ce que ça veut dire pour Haïti, je trouve que c'est hyper intéressant parce que ça nous décentre de notre paradigme hétérocentré, tu vois, centré sur l'Occident et la colonialité, et qu'il y a des mots qui nous sont communs, mais qui n'ont... Enfin, c'est même pas commun, c'est juste que c'est la même sonorité, mais ils ont tellement rien à voir, on peut pas dire qu'ils sont communs, tu vois.
Ils ont rien à voir. Et il y a Césaire et Senghor qui ont beaucoup utilisé ce mot. C'était une façon de rendre justice, tu vois, de rendre justice à non-descendants d'esclaves qui étaient traités des nègres. Maintenant, le nègre, ça se voit plus autrement et comme avant. Ce n'est pas un esclave, un nègre. En tout cas, dans ma société, en fait, chez moi, quand tu dis un nègre, c'est pas, ça n'a rien à voir avec l'esclavage. Au contraire, c'est une fierté. Quand une femme te dit, lui, c'est mon nègre, c'est-à-dire c'est mon amoureux, c'est mon homme, et c'est mon nègre, c'est un homme fort, d'accord. Et une négresse créole, c'est une sorte de marabout, quoi, une femme envoûtante, qui en sorcelle. C'est une femme qui très désirable, une femme qu'on aime.
Oui.
Et c'est pour dans ce texte-là, j'ai dit, et une négresse créole, tu es belle, tel le marabout, autour de tes hanches de négresse créole, tu portes... Et négresse créole, c'est chanter, c'est déclamer, c'est parler. Une négresse créole en Haïti, c'est... Moi, quand on me dit, t'es une vraie négresse créole, oh, ça fait sourire, quoi, ça fait chaud au cœur.
Bien sûr.
Mais je pense qu'aujourd'hui, si un blanc me traite de négresse créole, je suis sûre que je le prendrais différemment.
Bien sûr.
Que si ça venait d'un haïtien, en fait.
Oui, voilà, mais c'est exactement ça.
Si tu me dis « Coucou, ma négresse créole, comment vas-tu ? » Ça, c'est autre chose. Oui. Mais si un blanc, bon, je dis un blanc, enfin, veut dire, et une graisse créole, voilà. Je pense que ça, ça n'aurait pas la même signification pour moi, en
voilà,
fait.
C'est ça.
Ça signifiait tout simplement esclave. Mm. Bon, on ne l'a pas encore dit, celle-là.
Oui, non.
Et j'ai pas envie de l'entendre non
oui,
plus.
Oui, voilà, je te le souhaite pas quand même. Mais non, mais j'ai trouvé ça vraiment fascinant quand on en avait parlé, parce que tu as éclairé ce mot pour moi, qui était uniquement négatif, on est d'accord. Et c'est pas pour autant que je vais me mettre à l'utiliser, hein, c'est pas du tout la question, en fait, c'est pas ça. Mais c'est de se sortir du rapport que je peux avoir avec ce mot-là, par exemple, et voir que ailleurs, évidemment, c'est pas la même chose. Après, ça veut pas dire que je vais l'utiliser, ou même pour parler avec toi, ou je sais quoi. C'est pas la question.
Mais je pense que ça serait bizarre qu'un blanc dise négresse créole, je pense.
Mais parce que ça peut pas être un compliment, tu vois, dans notre bouche.
D'accord.
Parce que nous, dans notre société, même aujourd'hui, moi je suis blanc, je suis pas raciste, je l'emploierai jamais, tu vois. Même si je sais que... parce que ça concerne la société haïtienne, ça ne concerne pas la société française. Tu vois.
Il y a un grand écrivain haïtien qui s'appelle Daniela Ferrière, je pense qu'on le connaît très bien en France, qui a écrit un roman intitulé « Comment faire l'amour à un nègre sans se fatiguer ?» C'est encore pour te dire... Bon, le titre n'a rien à voir, ce qui est, et c'était juste pour le marketing, je pense, hein, n'a presque rien à voir, hein, avec ce qui est écrit dans le roman. Mais quand on te dit « moi, j'ai besoin d'un nègre, d'un vrai nègre », ben, j'ai besoin d'un nègre, d'un homme qui assure, quoi.
Oui, je...
tu vois, c'est ça, vois. Non, le nègre de chez nous, c'est ça. La bien négresse sûr. De chez nous, c'est ça ce que ça veut dire.
Oui, c'est des mots qui sont très empuissantants, qui est très combatif, de la force, de la beauté. Bon, c'est vraiment l'inverse dans notre monde à nous, mais c'est ça la force aussi d'avoir une littérature comme ça qui balance entre deux cultures, tu vois. Parce que ça permet d'éclairer des mots et ça permet de se sortir du regard qu'on a, tu vois.
Ouais.
Ça, c'est hyper précieux. Et... je voulais savoir, justement, en parlant d'autres auteurs et autrices, si tu en avais à nous conseiller.
Oui, j'en ai quelques-unes qui me viennent à l'esprit. Et notamment, Joseph Anthénor Firmin, c'est un écrivain haïtien qui a écrit « De l'égalité des races humaines ». C'était une sorte de réplique scientifique et un essai. Et écrit par Arthur de Gobineau, qui avait écrit « Essai sur l'inégalité des races humaines » pour montrer que, encore une fois, hein, on n'est pas tous égaux. Et Justin Lérisson, en tant qu'haïtien, il a écrit ce livre-là en réponse à cet essai. Et puis, il y a Justin Lérisson. Là, quand on me demande une référence, notamment je cite Justin Lérisson parce que ça permet de comprendre mieux la littérature haïtienne, la société haïtienne. On dit de lui qu'il est l'un des écrivains haïtiens qui sait raconter l'haïtien à l'haïtienne.
D'accord.
Là, il y a deux grands romans, c'est « La famille des petites cailles » et « Zone chez sa nénène ». Après, on a Jacques Roumain. « Gouverneur de la Rosée » de Jacques Roumain, qui est l'un des romans et les plus lus au monde d'un écrivain haïtien. Ça a été traduit en 17 langues et c'est l'un des écrivains haïtiens les plus connus. Et puis, on a Yannick Laens, une femme qui écrit très bien. On a Kate Lee Mars, une autre femme qui écrit divinement bien aussi. On a aussi Jocelyne Trouillot. Il y en a pas mal. Et puis, on a des poètes comme Cito Cavé, comme Pierre Brisson, qui écrivent vraiment, vraiment bien. Je pense que tu pourrais les aimer, en tout cas.
Ah bah, moi, je suis très curieuse parce que, en fait, je te pose la question parce que je me rends compte du manque de culture là-dessus. Moi, j'ai tristement l'impression que si tu n'es pas extrêmement cultivé, tu ne peux pas avoir comme ça des auteurs haïtiens qui te viennent en tête. Donc c'est un peu malheureux. Donc tu me redonneras les références, on les mettra sur le site en dessous du podcast, comme ça ce sera écrit.
Et dit qu'en Haïti on connaît pas mal des écrivains haïtiens et français parce qu'on étudie la littérature française en Haïti. Mais on en connaît pas mal On en lit beaucoup, non?
Je pense qu'il y a encore un petit rapport post-colonial là, à voir, là, quand même.
Non, on aime beaucoup. En fait, on est curieux.
Ouais.
On est curieux. Et tout comme on apprend l'anglais, l'espagnol à l'école.
Ouais, bien sûr. Mais tu vois, le fait qu'on apprenne ça à l'école, alors que nous, par exemple, à l'école française, on n'apprend pas d'auteurs haïtiens ou...
C'est dommage.
Tu vois ? Bah, je suis d'accord.
C'est
hein,
dommage
mais...
parce qu'on a de grands auteurs qui écrivent très bien. Là, je pense à Franck Etienne qui est poète, dramaturge, comédien, peintre, qui sait inventer des mondes, en fait. Mm. Et c'est très riche.
Ah non, mais ça, j'en doute pas.
C'est vraiment très riche.
De toute façon, je pense que les auteurs et les autrices sauvent la plupart des pays dans tous les pays du monde. Pas tous, mais bon, quand même beaucoup.
C'est pas mal.
Et bah, pour terminer, si tu as encore un poème ou un texte à nous lire.
Un petit dernier, je sais pas. Tu veux quelque chose de moi ou d'un auteur haïtien, peu importe.
Ah, c'est comme tu veux.
Je sais pas, tu veux pas choisir. Ok, j'avais écrit un petit texte à ma petite sœur. Je pense que je vais le lire. À ma petite sœur. Petite sœur, fais la sourde oreille. Il n'y a pas plus hypocrite que cette société. Ils s'érigent en donneur de leçons, de grands savants et ayant droit. N'entrez pas dans leur jeu. Ils savent à peine qui ils sont vraiment et ils prétendent te connaître. Fais taire leur petite voix dans ta tête à coup de vérité, ta vérité. Trace ton propre chemin. Sois qui tu veux être, pudique ou extravagante, croyante ou athée, homme, femme, non-genré, sans trois humaines, animal ou objet, ris, pleure, crie ou reste silencieuse. Assume toutes les facettes de toi, même les plus sombres, surtout les plus sombres, car chaque lumière a besoin de sa part d'ombre pour briller. C'est comme cela, tu resteras libre, tu resteras toi. Et si un jour tu veux faillir, rappelle-toi de ces mots.
Ah bah c'est parfait pour conclure cette émission. Merci beaucoup Sandra, Maurice, Joseph d'être venus dans
l'émission. Merci à toi pour l'invitation, ça m'a fait grand plaisir.
Ah bah faudra que tu reviennes.
Oui, voilà. J'y reviendrai.
Avec plaisir.
Merci.
Oubliez ce que disent les lois, ignorez les chiens et les rois, placez-vous devant un miroir, faites-vous un interrogatoire. Qu'avez-vous fait de positif, sans espérer rien en retour? Un geste à but non lucratif, sans demi-mesure ni détour. Pensez-vous que c'est normal de dormir au chaud et un frère à la belle étoile? Il a les moyens en dessous de zéro et vous une vie de 5 étoiles. Vous avez des dîners aux chandelles, l'autre est comme un chien dans les poubelles. Si c'est vrai que l'homme est un demi-dieu, la moitié du mal a triomphé. Oh.
D'être très fort si on ne peut pas aider les faibles. Est-ce que c'est la vie qui a tort ou c'est l'homme qui piétine les règles? Dites-moi à quoi ça sert d'être très grand sans respect pour les plus petits, quand on sait que normalement petit à petit les tout petits deviennent grands.
Y'a trop d'avares, trop de renards et de bavards, trop d'injustices, de préjudices et de barbares. Trop de gens qui oublient trop les autres alors qu'ils se font passer pour des apôtres.
Trop de visages masqués, trop de têtes casquées, trop de bottes lacées, j'en ai assez. Trop d'enfants qui meurent, trop de gens sans demeure. Le monde est devenu trop immonde.
Je chante pour ceux
qui n'ont jamais eu toi. Je questionnerai l'homme dans le miroir.
Enchanté.